L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les cieux pour plonger au fond.
Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec Davy, c'est le LEM du vendredi. Vous êtes en direct avec moi de midi jusqu'à 13h. Et puis comme d'hab, ce soir à 18h, c'est la rediffusion. Et bien sûr, vous pouvez écouter la radio tout le temps, peu importe où vous êtes, sur internet à transistor.bzh, et ce pour l'éternité. Alors travailler c'est bien, et travailler à plusieurs, eh ben, c'est mieux. Surtout quand on travaille dans l'environnement et surtout sur un site aussi particulier qu'un estran. Alors la semaine dernière, hein, Véronique avait accueilli un scientifique qui travaille pour l'IFREMER pour nous parler des vers. Est-ce que l'on sait moins ? C'est que derrière ces petites bestioles qui s'agitent, il y a des hommes et des femmes qui s'agitent aussi. Et justement, en particulier, Julie Rionnier de Biodivertisson qui vient nous parler du travail en réseau sur les estrans avec le REB, le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. Bonjour Julie.
Bonjour David.
Comment ça va par cette belle journée bien pluvieuse et bien fraîche ?
Très bien, comme d'habitude.
Comme d'hab. Bon, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce qu'est Biodivertisson ? Et le REB.
Oui, alors Biodivertisson, c'est une auto-entreprise qui est basée à Plébin, dans le Finistère, au centre des Monts d'Arrée, et qui fait de la sensibilisation à la préservation de la biodiversité. Donc on monte des ateliers pour faire découvrir la biodiversité dans son intégralité. Donc ça va aussi bien, on va parler aussi bien des abeilles que des petites bêtes de l'estran et de la laisse de mer dont on va reparler. Et ça aussi bien auprès des tout-petits en crèche jusqu'en résidence avec des personnes âgées et auprès des scolaires, auprès des collectivités.
Auprès du public en général.
Auprès du public en général, effectivement.
De tout le monde. Et donc vous êtes la gérante de Biodivertisson. Et depuis peu, vous travaillez avec le REB. Et c'est quoi le REB ?
Alors le REB, c'est, comme tu le disais, le Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. C'est une association qui est basée à Guingamp et c'est un réseau de professionnels de l'éducation à l'environnement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des structures comme Biodivertisson, des associations comme Bretagne Vivante, des scientifiques, des réseaux de scientifiques comme IFREMER, en fait, le REB met en lien tous ces acteurs qui ont un lien avec l'éducation à l'environnement en Bretagne, pour les faire travailler sur des projets en commun. Donc on va reparler de ce fameux travail en réseau. Donc voilà.
Alors pourquoi l'estran, c'est un milieu intéressant pour le REB et en même temps pour Biodivertisson ?
Alors déjà, l'estran, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est.
Oui, c'est vrai, c'est quoi déjà ? Bien joué, bien joué.
L'estran, c'est la zone qui se situe entre la marée la plus basse et la marée la plus haute. Donc ça veut dire que sur une plage, c'est une zone qui est de manière alternative recouverte et découverte par l'eau.
Ouais, et jamais de la même façon.
Et jamais de la même façon, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Bretagne, et je reprends mes chiffres pour ne pas dire de bêtises, mais c'est là où, c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est important. En Bretagne, on a plus de 2500 km de côte. Donc c'est la région où il y a le plus de kilomètres de côte.
Alors quand on dit Bretagne, on part de où ? On part de Nantes jusqu'à Saint-Malo ou...
On parle de la Bretagne.
Soyons sérieux.
Soyons sérieux. Non, on parle de l'ensemble de la région, vraiment aux frontières, je pense.
Ouais. Je crois 1200 km pour le Finistère, c'est pas ça ?
Je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, ça serait intéressant de vérifier, mais effectivement, oui, c'est énorme. L'estran, en fait, la zone découverte, elle représente 800 km² en Bretagne. Donc c'est énorme. Et en fait, l'estran, ensuite, il va avoir des spécificités en fonction de la typologie du sol. Donc ça peut être des roches, ça peut être du sable, ça peut être de la vase. Et en fait, la diversité et la complexité de ces écosystèmes-là, il va être défini par la marée. La marée, en fait, quand on a des gros coefficients, ça monte beaucoup plus loin. Ça descend beaucoup plus bas. Donc, tu vas avoir une zone de recouvrance d'eau qui va être plus ou moins importante en fonction de la marée, en fonction de la houle, en fonction des vents.
Donc, du climat.
Du climat. Je l'ai dit en fonction du sol, si ce sont des rochers, du sable ou de la vase, mais également de la présence de l'homme et de l'intervention qu'on va avoir. Comment est-ce qu'on enlève, est-ce qu'on nettoie les zones, entre guillemets, hein, le nettoie, la fameuse laisse de mer. Tout ça, en fait, tout ça, ça va jouer sur la diversité des espèces qui vont pouvoir y vivre ou pas. Parce que chaque typologie d'estran, s'il y a des rochers, on l'a tous vu, à marée basse, il y a des petites réserves d'eau. Mmh. Ben ça, il va y avoir des espèces spécifiques qui vont rester dans ces flaques d'eau. Quand on a un estran qui n'est fait que de sable, on va avoir, si on a une petite typologie du sol avec des bosses, les zones qui sont découvertes un peu plus de sable, où le sable est un peu plus sec, s'appellent des bâches. Et là, pareil, il va y avoir des espèces différentes sur une plage de sable, si elle est toute plate ou s'il y a des bosses. Voilà, il y a plein d'éléments, ce qui fait que ce sont des habitats très spécifiques, très particuliers, plus ou moins fragiles en fonction de l'activité humaine et des conditions du climat. Voilà, donc ça en fait, surtout en termes d'éducation à l'environnement, c'est un espace qui est souvent, pas toujours, mais assez facile d'accès par tout le monde, et ça en fait une zone d'observation, une zone d'étude et une zone d'éducation très très large.
Alors pourquoi c'est vraiment une zone spécifique, alors malgré tout ce qu'on vient de dire, au niveau peut-être faune et flore, parce que c'est justement c'est à cause de tous ces changements qui s'opèrent tout le temps, toutes les heures, est-ce qu'on a vraiment des animaux spécifiques qui s'adaptent facilement, qui ont développé, c'est ça, des capacités particulières pour pouvoir être encore là quand la marée est absente, enfin quand il n'y a plus d'eau pendant 6 ou 12 heures, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant pour le REB et puis pour faire des animations.
Oui, alors dans la nature en général, hein, toutes les espèces s'adaptent de manière très étonnante à leur cadre de vie. Mais effectivement, sur l'estran, alors ce sont des écosystèmes autant singuliers et complexes qu'on peut avoir en rivière ou en mare. Voilà, tout est très complexe. Mais effectivement, il y a des espèces qui peuvent être très particulières, qu'on appelle des espèces, alors d'un point de vue général, hein, halophiles, donc qui savent vivre avec l'eau salée, déjà rien que ça. Rien que de savoir vivre avec de l'eau salée. On le voit bien, par exemple, avec le passage de Kiaran. Il y a des zones entières où il y a eu de la projection d'eau salée sur des zones qui, d'habitude, n'ont pas cette concentration d'eau salée. Bah, elles étaient complètement cramées. Par exemple, voilà, ce sont des espèces qui sont juste adaptées à leur écosystème, mais qui ne se retrouvent pas forcément à d'autres endroits.
D'accord. Donc, alors après, quand on pense à un estran, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la plage. Quand on pense à de l'eau qui se retire et puis qui arrive, mais c'est vrai qu'il y a aussi tous ces espaces rocheux qu'on peut voir, notamment la pointe du Raz ou ce genre d'espace. C'est quand même des endroits qui sont peut-être plus difficilement accessible en termes de sciences participatives. Ou alors on fait quand même de l'éducation à l'environnement dans des endroits un petit peu dangereux quand même.
C'est une question qui peut s'adapter en fonction des publics et en fonction de l'objectif des séquences. Mais effectivement, de toute façon, quand on va sur une plage ou sur un estran pour faire un atelier de sensibilisation, l'heure de marée, la météo, la typologie du sol demandent une adaptation. Et dans ces cas-là, on peut tout à fait le faire, mais toujours en gardant bien les mesures de sécurité, de faire en sorte que les publics aient les bons équipements. Et puis, il faut qu'il y ait un objectif. Il ne faut pas aller sur une zone pour aller sur une zone. Et il faut aussi regarder est-ce que la zone est protégée ? Est-ce qu'il y a des espèces protégées dessus ? Qui sont les gestionnaires du territoire, qui sont propriétaires ou gestionnaires justement de ces espaces-là ? Ce sont des ressources et des experts qu'il faut bien sûr prendre en compte et interroger en cas de moindre doute. Voilà, les collectivités, bien sûr, hein, il faut les prévenir en fonction de la typologie d'atelier que l'on fait. On en avait parlé par rapport aux déchets, par exemple. Voilà, on prévient les mairies et on fait les choses bien.
Alors justement, comment un réseau démarre un nouveau projet ? Est-ce qu'ils commencent justement par solliciter les mairies pour dire voilà, on a un truc, comment ça se passe ?
Une question complexe. Non, pas complexe, mais très large. Ouais. Comment démarre un nouveau projet ? Ben, c'est soit effectivement on a une demande des collectivités, d'un établissement scolaire, d'un gestionnaire d'un territoire qui a besoin de sensibiliser le public sur un sujet très particulier, par exemple sur la laisse de mer, sur le rôle de la laisse de mer. Donc la laisse de mer, ce que la mer laisse quand elle
laisser.
C'est ça. C'est ce que la mer laisse quand elle se retire, donc quand elle à marée descendante.
Très poétique.
Oui, mais c'est complètement ça. Et du coup, elle va laisser des débris plus ou moins naturels. Hein. C'est ce qu'on avait abordé à travers la particularité des déchets échoués sur le littoral. Mais ça laisse aussi des algues, des carcasses d'animaux. Enfin voilà, ça va laisser tout un tas de choses. Et la laisse de mer, elle est là pour nourrir et accueillir. C'est un habitat à part entière. Pour accueillir et nourrir un certain nombre d'espèces. On voit les oiseaux, on a les puces de mer. Enfin, il y a plein d'espèces. On voit même sur nos littorales, dans la laisse de mer, des frelons asiatiques, par exemple, qui viennent se nourrir de protéines. Enfin, voilà, c'est vraiment un écosystème à part entière. Et donc, en fonction du sujet à aborder, nous, par exemple, au REM, donc moi, je suis animatrice de la commission mer et littoral. Donc, en fait, c'est un groupe de travail, très concrètement, hein, un groupe de travail qui réunit des structures qui cherchent des informations ou qui veulent partager des pratiques du quotidien sur des thématiques comme les petites bêtes de l'estran, la pêche à pied, et qui vont sensibiliser des publics sur leur territoire. Et donc, par exemple, autour de la découverte de l'estran, c'est où est-ce qu'on trouve des outils assez complets pour donner de l'information cohérente et complète aux enfants, par exemple. Et donc, nous, le REB, on va interroger ce groupe de travail-là. Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse ? Est-ce que sur le terrain, vous pourriez utiliser un outil ? Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui ? Et est-ce qu'il y a une légitimité à créer un nouvel outil ou justement plutôt à diffuser des outils déjà existants pour permettre aux structures d'utiliser les mêmes outils et de gagner du temps en fait dans la préparation des animations. Et donc on a un site internet qui s'appelle la Toile de Mer qui regroupe justement l'ensemble des ressources sur des grandes thématiques comme ça liées à la mer que les éducateurs à l'environnement peuvent utiliser sur le terrain. Donc c'est un projet qui a émergé à la demande des membres de la commission mer et littoral qui disaient mais moi je passe un temps infini à aller chercher des photographies ou des explications sur le Bernard Lhermitte par exemple. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil ? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut centraliser toutes les données ? Que moi je puisse aller regarder et créer mes animations avec ces outils déjà existants. Voilà par exemple. On va parler de d'autres outils ensuite, un peu plus tard dans l'émission. Mais voilà, très concrètement, les projets, ils émergent comme ça, avec un besoin de terrain. Et nous, le REM, on va coordonner, grâce à ce réseau-là, on va poser la question, faire un sondage, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Ça vous intéresse, qui ? Les structures ? Combien de temps vous avez à accorder à ce projet-là ? Et ensuite, nous, on va faire le lien avec les financeurs pour aller chercher du budget et pouvoir payer ensuite les différentes structures qui veulent participer au projet.
D'accord, mais j'imagine qu'il peut y avoir plusieurs structures identiques qui se présentent à un projet, mais comment on fait pour choisir la bonne ? Parce que potentiellement, elles le sont toutes.
C'est aussi ça le rôle du REP, c'est de connaître nos adhérents, parce que ce sont des structures adhérentes, de connaître les expertises de chacun et faire en sorte que le rôle de chacun soit complémentaire. Oui, effectivement, on fait tous de l'éducation à l'environnement sur des territoires plus ou moins proches les uns des autres. Les fonds sont pas infinis, donc effectivement, il faut construire des projets où tout le monde puisse gagner sa vie et tout le monde puisse participer de manière cohérente au projet.
D'accord. Et alors, j'avais une question quand même avant de parler des outils professionnels, des moyens mis en œuvre et tout ça. Comment on fait pour choisir le bon estran pour appliquer justement une envie, quoi ?
Ben en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de jeu. C'est déjà où est-ce que je veux faire mon animation d'un point de vue géographique. Est-ce que c'est accessible ou pas? Et quel est l'objectif de la séance? Est-ce qu'on veut observer la laisse de mer? Donc dans ces cas-là, il faut une plage plutôt assez grande, avec peut-être une zone où on a de la marge de manœuvre entre la marée haute et la marée basse, qu'on ne se fasse pas piéger par la marée et qu'on ait une laisse de mer assez dense en fonction des saisons, ce n'est pas forcément le cas, mais assez dense pour avoir de quoi observer, de quoi montrer au public la laisse de mer, là si on parle de la laisse de mer. Est-ce que l'objectif c'est parler de la pêche à pied? Donc, dans ces cas-là, il faut plutôt une plage où tu as des rochers, où tu vas à marée basse pouvoir avoir des cuvettes pour aller observer un peu des espèces dans leur habitat naturel sans les déranger trop. Est-ce que ton objectif c'est plutôt de parler de la vase et de comme quoi c'est un sédiment très particulier et où il y a également une grande diversité d'espèces, mais du coup ça peut être un peu plus difficile d'accès en fonction de ouais. comment tu t'enfonces ou pas. Enfin, en fait voilà, ton estran il va être lié à l'objectif, à ce que tu veux observer. Et t'adapter aux conditions météorologiques et aux conditions d'accès. Et également, t'adapter si t'es sur une zone protégée ou pas, ça, où il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire.
Ouais. J'allais y venir, les zones protégées, vous y avez accès. Vous, est-ce que vous avez un espèce de passe-droit pour y aller ou pas?
On n'a pas de passe-droit. Quand tu dois intervenir sur une zone, de toute façon, tu regardes... Comment elle est organisée, mais aussi est-ce qu'elle fait l'objet de restrictions d'accès ou de protection d'espèces particulières. Et dans ces cas-là, oui, tu peux très bien dire ça, on n'a pas le droit d'y aller parce que j'ai un groupe de 20, je sais que je vais déranger des espèces. Donc là, du coup, on a des structures ressources, hein, comme le Conservatoire du Littoral, comme ici le Parc Naturel Marin d'Iroise ou même le Parc d'Armorique si on n'est plus dans les terres, etc. Donc, et les parcs, hein, et ouais. les parcs.
Donc ça, alors le REB, il a aussi cette fonction-là de d'un petit peu vous prévenir que attention, si vous voulez aller là, c'est un site protégé, vous pouvez pas ou pas trop. Ils ont un rôle de conseil, de trucs comme ça ou pas.
D'un point de vue général, oui. Pour les structures qui sont nouvelles ou qui commencent dans ce métier-là, c'est des choses effectivement qu'on va leur expliquer. Mais après, on considère que nous, on est un réseau de professionnels de l'éducation à l'environnement, donc. Les professionnels de l'éducation à l'environnement, ce sont des réflexes qu'ils ont. Donc voilà, on peut, quand nous on fait des événements, de toute façon ce sont des choses auxquelles nous on va faire attention, mais c'est plutôt le rôle des éducateurs à l'environnement.
Ouais, plutôt.
Qui ont la connaissance de leur territoire et qui savent où est-ce qu'ils interviennent ou pas et qui ils doivent contacter.
On a quoi comme estran sympathique là pour faire des. Dans le coin? Juste comme ça, un mot ou deux?
Par exemple, sur la commune de Plougastel, on a un estran rocheux à l'Armor, à la plage de l'Armor, avec beaucoup de galets, beaucoup de cailloux, qui peut être très intéressant, avec aussi des cuvettes. Si on est plus du côté de Plomodierne et de Sainte-Anne, on va être sur des estrans justement principalement sableux, mais avec aussi des rochers. Donc en fait, ce qui est intéressant par chez nous, c'est qu'on a toujours, une mixité. En fonction de ce que l'on veut observer, on a vraiment une grande diversité d'espaces. Voilà, moi, c'est les principaux sur lesquels je vais... Et la plage du passage aussi à Plougastel. Voilà. Okay.
Est-ce que, alors on va reparler un petit peu des outils professionnels que vous avez. Est-ce que vous avez donc des outils, donc, j'imagine, pour le collectage, pour répertorier? J'imagine que c'est sous forme d'application. Vous pouvez faire ça sur votre téléphone?
Alors quand tu dis collectage, c'est
c'est pas prélevé, c'est par exemple voilà, il y a un truc qui a l'air bizarre, je sais pas trop ce que c'est, je prends une photo. Est-ce que ça existe ça? Vous envoyez la photo au REB et puis pouf, vous avez une réponse d'un de vos collègues. Si je connais, c'est ça. Regarde, on l'a déjà vu là, c'est répertorié là, tu as tout ce qu'il faut comme information. Est-ce que vous avez ce genre de bibliothèque interactive partageuse, genre de choses?
Alors pour les éducateurs à l'environnement, entre nous, effectivement, on a dans le réseau des personnes qui sont plus ou moins expertes sur le littoral. Donc moi, par exemple, je connais pas mal le littoral, mais quand je vais rencontrer avec des enfants ou avec un groupe des choses pour lesquelles je suis pas sûre, j'ai mon petit carnet d'adresses privilégié d'experts auprès desquels je peux me renseigner en disant voilà, qu'est-ce que c'est, je suis pas sûre. Est-ce qu'il faut que je fasse attention sur certaines choses? Et sinon, on a effectivement des guides, j'en ai rapporté, mais on a des guides qui sont faits comme celui qui a été cité lors de l'émission justement avec l'estranologue de l'Ifremer qui travaille à Bretagne Vivante, Gamin Droual, effectivement, sur les petites bêtes du littoral, alors qu'il y a ce sont des petits fascicules qui énumèrent en fait toute la typologie des espèces que l'on peut retrouver sur le littoral, mais d'un point de vue œil citoyen, c'est-à-dire là je vais trouver une coquille, est-ce que je vais arriver à l'identifier avec des outils comme ceux-là. Donc ils sont super accessibles, ils sont téléchargeables, enfin ils sont vraiment très très sympathiques à utiliser. Et après, au REB, justement, avec différents acteurs naturalistes et experts, on a développé une application qui s'appelle Bernic & Click, qui est une application pédagogique pour le grand public, enfin pour tout le monde en fait, pour découvrir, avec un jeu de questions-réponses, les espèces que tu peux voir sur l'estran. Alors des algues, tout un tas en fait, d'espèces. Il y a 130 espèces qui sont particulières au littoral breton.
Et ça, c'est spécifique à l'estran, cette application-là.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc ça, c'est une application grand public, ça veut dire que je vais sur une marque qui s'appelle GOGLE, je tape Bernic & Click et pouf, c'est téléchargé. C'est gratuit ?
Alors, c'est gratuit et ça passe pas par les stores, justement. On peut la télécharger directement en ligne sur Bernic, B-E-R-N-I-C. nic.bzh avec un QR code, et l'avantage c'est que tu peux l'utiliser hors connexion. Une fois que tu l'as téléchargé en fait sur ton téléphone, il faut bien faire les mises à jour pour que tu aies accès à toutes les espèces, et après une fois que tu es sur le littoral, que tu aies du réseau ou pas, tu peux l'utiliser. Et ça te pose des questions. Je suis un gastéropode, j'ai un pied principal, la taille de la coquille ou la forme de la coquille, et ça va te, avec des questions-réponses, ça va t'amener à l'espèce que tu observes sur le littoral. Et ensuite, tu arrives sur des fiches qui vont te donner l'habitat principal, le mode de reproduction, le mode d'alimentation, avec quelques anecdotes. Et c'est super ludique. Nous, on l'utilise beaucoup, on l'utilise beaucoup en animation, avec en complément justement des guides dont je te parlais juste avant. Et donc voilà, ça, c'est super chouette. Donc, c'est un outil professionnel, mais pour le grand public aussi, accessible à tous. Et vraiment, aller voir, c'est hyper chouette.
Et c'est utilisable en Bretagne aussi? Enfin, que en Bretagne, on peut aussi, à Biarritz. Allez hop, on va à Biarritz. Et puis, est-ce que je peux l'utiliser à Biarritz?
Alors oui, après, c'est là où on est en train de faire évoluer aussi, dans les prochaines années, l'application. C'est que là, tu as, entre guillemets, que, et c'est pas du tout péjoratif, tu as 130 espèces représentatives du littoral breton, mais bien sûr, soit en Normandie ou plus bas, tu vas trouver des espèces en commun, mais tu as quand même plus de chances en fonction de ton jeu de réponse d'arriver à pas la bonne espèce, quoi.
Est-ce qu'on peut créer son petit catalogue dedans avec ses propres photos, ses propres remarques, ses propres observations?
Non, en fait, tu as déjà tout qui a été justement pré-réalisé par l'équipe projet du REB.
On sait où c'est fait, ça, cette petite application ou pas?
Elle est faite ici, en Bretagne.
Et voilà, ça, c'est une bonne chose. Et il y en a une autre. Ça, c'est plutôt un site, c'est à la mer. C'est quoi à la mer? C'est pour les algues de la laisse de mer.
Oui, c'est ça. A-L-A-M-E-R.
Ouais.
En fait, c'est un protocole de science participative dont le référent scientifique, c'est le Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous, en Bretagne, les contacts que l'on a, ils sont à Concarneau, avec Pauline Poisson notamment. Le protocole à la mer, c'est pour étudier les algues de la laisse de mer en nombre, en densité et en diversité, pour voir si ensuite, au niveau des algues, avant qu'elles soient détachées justement et qu'elles se retrouvent dans la laisse de mer, si dans la mer, on retrouve les mêmes. Les scientifiques ensuite mettent en lien les algues qu'on retrouve sur la laisse de mer avec les espèces qui sont donc vivantes, qui sont étudiées dans la mer pour voir s'il y a un lien au niveau avec les courants, avec les vents, avec les conditions climatiques, s'il y a un lien avec ce qu'on retrouve sur les plages. Et donc tout ça, c'est fait au niveau de la Bretagne, enfin c'est au niveau national, toute la côte atlantique. Et donc ça fait partie en fait d'un programme plus large qui s'appelle Plage Vivante. Et donc là, je vais reprendre exactement les termes pour pas dire de bêtises, mais c'est un observatoire participatif de la biodiversité des hautes plages. Et du coup, quand vous allez sur le site Plage Vivante, ils vont étudier aussi bien les oiseaux que les plantes bio-indicatrices et pionnières du haut de la dune que les algues. Et les oiseaux. Donc en fait, ça, après, tu as différentes équipes de scientifiques qui interviennent à chaque niveau. Et en fait, comment ça se passe, par exemple, avec les enfants? Tu choisis, c'est là où... Comment tu choisis ton estran pour aller faire une animation? Là, pour le protocole à la mer, ton objectif, c'est qu'il y ait de la laisse de mer, a priori. Quelquefois, il n'y en a pas, même sur une plage où il y en a souvent. Et donc, où tu as une zone entre la marée haute et la marée basse qui te laisse assez le temps pour aller étudier les algues de la laisse de mer. Ensuite, une fois que tu es sur ta plage, tu dessines un transect de 25 mètres et tu vas placer des quadrats, donc c'est du 1 mètre sur 1 mètre, des cadres d'un mètre sur 1 mètre, et tu places les enfants autour de ces quadrats-là et ils ont une fiche, ils ont une clé d'identification pour reconnaître les algues par couleur, avec les différentes formes d'algues, je ne rentre pas dans le détail. Et ils ont une fiche où ils remplissent le nom d'algues, le nom des algues qu'ils savent reconnaître et la densité. Si sur ton quadrat, c'est recouvert à 80% d'austère, par exemple, ou à 10% de sargasses. Et ça, ensuite, ils transmettent cette fiche-là à l'équipe, notamment donc, du muséum et à Pauline, qui va, elle, faire une cartographie des différentes zones d'études, qui va voir si on trouve la même chose, pas la même chose, à quelle saison c'était, conditions climatiques, etc. Est-ce que la plage, elle est nettoyée? Voilà. J'y suis allée très vite, mais c'est très intéressant à faire. C'est vraiment chouette.
Je vous fais plein de yeux depuis tout à l'heure parce qu'on n'a vraiment plus le temps. Merci beaucoup, Julie, d'être venue participer à l'émission.